VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par la présidentielle américaine 2016. La dynamique électorale reste ce lundi favorable à la candidate démocrate Hillary Clinton au lendemain de son deuxième débat face à son rival républicain Donald Trump. Un affrontement unique dans l'histoire présidentielle américaine par la virulence et la teneur personnelle des attaques. Donald Trump avait besoin de briller pour rebondir après un week-end désastreux causé par la divulgation de ses propos dégradants sur les femmes tenus en 2005 et aussi pour stopper les défections au sein de son camp. Mais le miracle ne s'est pas produit. On écoute Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Je crois que Trump est assuré maintenant que les gens qui soutiennent Trump vont rester avec lui malgré cette histoire de vulgarité contre les femmes. Il a fait un bon débat et ces gens-là vont rester avec lui. Mais je ne crois pas qu'il a gagné sur des autres fronts. La plupart des femmes vont voter contre lui à cause de son attitude de non-respect des femmes. Donc, je crois qu'il a gagné le débat, mais pas suffisant pour gagner l'élection.
Sur la défensive, le candidat républicain Donald Trump a donc opté lors de ce débat tendu et acerbe pour un affrontement très personnel. Écoutez la réaction de René Lick, administrateur du site cneplus.com sur cette stratégie.
Une heure avant le débat, la campagne de Donald Trump a présenté une vidéo qui montrait Donald Trump entouré de 4 accusatrices du président Clinton, dont une qui l'accusait de l'avoir violée, d'autres de les avoir agressées sexuellement, etc. Et donc, il y a fait allusion, effectivement, au début du débat, mais je crois que la réponse d'Hillary Clinton était assez intéressante. Elle a paraphrasé Michelle Obama qui avait dit que quand l'adversaire réautorera des pâquerettes, il vaut mieux de son côté s'élever un peu et n'est pas allé très loin dans cet échange-là. Je crois que c'était sa stratégie. Mais au-delà de ça, je pense que tous les deux ont joué plutôt à mobiliser leur base. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que Donald Trump ait gagné une voix de plus. Au contraire, je crois que en tout cas au niveau du leadership du Parti républicain qui attendait des excuses renforcées de la part de Donald Trump par rapport à cette question de la vidéo, ils ne l'ont pas obtenue et je crois que ça n'arrêtera pas l'hémorragie.
René Lick, administrateur du site cneplus.com.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique maintenant, en RDC au moins 10 morts. Tel est le bilan d'une nouvelle attaque dans l'est du pays. Des présumés rebelles ADF, forces démocratiques alliées, ont attaqué la nuit passée la localité de Beni dans la province du Nord Kivu. 8 civils sont morts par balle et côté combattant, un militaire a été tué ainsi qu'une présumée milicienne ADF, a affirmé à l'AFP Gilbert Kambalé, président de la société civile de Beni. En RCA, l'archevêque de Bangui a promis de se rendre dans le quartier musulman de la ville, symbole des tensions du pays dans son premier message de paix après sa nomination au titre de cardinal par le pape François. Le plus jeune des 13 nouveaux cardinaux annoncés dimanche par le souverain pontife, Monseigneur Dieudonné Nzapalainga, 49 ans, avait accueilli le pape François à Bangui fin 2015 pour marquer la fin de la guerre civile en Centrafrique. Et puis le Burundi a décidé de quitter la CPI, la Cour pénale internationale, une décision adoptée par le gouvernement qui doit être examinée et approuvée par l'Assemblée nationale. Il y a une semaine, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a ouvert une enquête sur les crimes commis dans le pays et la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a lancé un examen préliminaire, notamment sur des meurtres, tortures et viols. Bujumbura estime qu'il s'agit de complot de la communauté internationale. Pour analyse de la situation, Eric Manirakiza a joint à Londres Karina Tertsakian, chercheuse de Human Rights Watch sur le Burundi.
Ce serait une mesure vraiment regrettable, hein. Regrettable, mais peut-être pas tout à fait surprenante, hein, parce que malheureusement, le gouvernement burundais, chaque fois qu'il y a des critiques par rapport à la situation des droits humains dans le pays, réagit de manière négative et même hostile. Hein. Par exemple, il n'y a pas longtemps, lorsque le comité contre la torture des Nations Unies faisait son examen de la situation au Burundi, la délégation burundaise ne s'est même pas présentée le deuxième jour pour répondre aux questions.
Qu'est-ce que Bujumbura a à perdre dans tout cela?
Il semble que cette décision du gouvernement burundais est liée ou provoquée par la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a adopté une résolution créant une commission d'enquête internationale. Il semble donc que certaines autorités burundaises craignent peut-être que cette commission d'enquête ne mène par la suite d'autres enquêtes et éventuellement des poursuites au niveau de la Cour pénale. Mais à notre avis, une décision de se retirer serait plutôt un signe de faiblesse et montrerait que le Burundi a quelque chose à cacher.
Le gouvernement de Bujumbura dénonce un complot de la communauté internationale. C'est cette motivation qui a entraîné la décision de retrait.
Ils peuvent parler de complot, mais chacune de ces organisations a travaillé de manière tout à fait indépendante et a tiré les mêmes conclusions.
Y a-t-il un intérêt à rester au sein de la Cour pénale internationale?
Absolument, il y a un intérêt important pour le Burundi. Tout d'abord, si le Burundi veut vraiment démontrer son engagement par rapport à la justice, par rapport au respect des droits humains, la Cour pénale internationale actuellement est en train de mener un examen préliminaire de la situation au Burundi. Ce n'est pas une enquête en tant que telle, c'est la première étape. On ne sait pas encore si ça va aboutir sur une enquête, mais si jamais la Cour décide de lancer une enquête, le Burundi devrait coopérer pleinement avec cette enquête. Ce serait donc dans son intérêt de participer pleinement à cette initiative.
Karina Tersakian, chercheuse de l'Organisation de défense des droits humains Human Rights Watch sur le Burundi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, Côte d'Ivoire poursuit cette semaine à Abidjan du débat à l'Assemblée nationale sur la révision de la constitution ivoirienne. Un nouveau texte qui crée un poste de vice-président et un Sénat. Fini aussi la limite d'âge pour les candidats à la présidentielle. L'objectif du président Alassane Ouattara est d'instaurer une troisième république dans le pays. Mais l'opposition ivoirienne dénonce le texte et s'oppose au plan de révision. Nicolas Pinault a rencontré à Abidjan Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale sous l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo et aujourd'hui président du parti Leader.
Cette constitution est arrivée parce qu'à Marcoussi et la crise ivoirienne ayant éclaté, Ouattara et ses amis ont expliqué que cette constitution contenait les germes d'un conflit et que ces germes-là s'appelaient ivoirité, nationalité, foncier. Donc, on était en droit de s'attendre à ce que cette constitution corrige ces problèmes-là, ce qui n'est pas le cas. La situation actuelle est liée à l'agenda particulier de Ouattara. Il dit qu'il fait le référendum en fin octobre. La campagne électorale doit durer 2 semaines. Donc, à partir du 15 octobre, la campagne commence. Ouattara veut forcément ce texte maintenant, avant les législatives. Sa force, c'est qu'il va organiser les législatives sous l'autorité de cette constitution, ce qui lui permet de se donner un vice-président, ce qui lui permet de vendre des sièges du Sénat à des amis politiques.
Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Au Nigeria, la police secrète a mené un vaste coup de filet dans le milieu des juges dans le cadre d'une opération anticorruption. Des centaines de milliers de dollars ont été saisis pendant les perquisitions à leur domicile. Jean-Roger Bion.
7 juges ont été arrêtés et l'enquête porte sur 15 magistrats soupçonnés d'avoir touché des pots de vin. Les autorités fédérales affirment avoir saisi 800 000 dollars lors de descentes au domicile de ces juges soupçonnés de corruption. Le département des services d'État, ou DSS, affirme que les fouilles ont permis de découvrir une fortune en liquide, des devises multiples, des biens immobiliers d'une valeur de plusieurs millions de naira et des documents compromettants. Mais Aboubakar Mahmoud du barreau nigérian dénonce ces raids qui, selon lui, rappellent le style de la Gestapo. Adetokumbo Mumuni, qui dirige une organisation de défense des droits de l'homme, a appelé les autorités à relâcher immédiatement et sans condition ses juges. Mouhamadou Bouhari, élu en 2015, a lancé une vaste campagne contre la corruption qui gangrène ce pays pétrolier. Des critiques l'ont accusé d'utiliser cette campagne pour museler les opposants politiques.
Et pour terminer, l'Éthiopie a accusé ce lundi des puissances externes telles que l'Égypte d'être à l'origine des violences sans précédent depuis un quart de siècle qui agitent le pays et ont conduit le gouvernement à déclarer l'état d'urgence pour 6 mois. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement éthiopien, Getachew Reda, a accusé nommément l'Égypte de financer et d'entraîner militairement le Front de Libération Oromo, un mouvement rebelle indépendantiste, et ce dans le but de promouvoir les droits historiques de l'Égypte sur l'accès à l'eau du Nil. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.